À vous la suite. L'appartement du dessous de Florence Herlemont. Fin du livre. Il est maintenant temps de savoir pourquoi Hectorine écrit depuis si longtemps à Sarah. Avez-vous bien anticipé la fin du livre? Si cette vision des derniers chapitres du livre vous laisse sur votre faim, le livre reste disponible à la bibliothèque pour une écoute complète.
Jeudi, 13 octobre, toujours aussi tard. Hectorine, je ne sais pas par quoi commencer. Votre lettre m'a secouée, vraiment. J'ai pensé à vous et à Oda toute la journée d'hier. J'essayais de me représenter cette fille qu'il a assassinée pour sauver sa peau, votre évasion improbable, mais réussie toute cette folie. Je n'ai fait qu'y penser et ça m'a rendue trop triste. Je voulais vous proposer un double de mes clés pour que vous puissiez profiter de la salle de bain. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma proposition. Je vous communiquerai mes plages d'absence. Vous serez tranquille, je vous le promets. À bientôt. Prenez soin de vous. Affectueuse pensée, Sarah. Paris, dimanche 16 octobre, gris et froid. Délicieuse Sarah. Vous allez être surprise. Figurez-vous que j'ai décidé d'accepter votre invitation. Rassurez-vous, je me limiterai à un usage ponctuel, pas plus d'une ou deux fois par mois. Il m'est arrivé, certains hivers, d'attraper froid en sortant des bains. Et avec la froidure qui s'annonce, je pense que cela me préservera de contracter bronchite et autres maladies qui pourraient m'être fatales à mon âge. Vous en conviendrez. Je sais aussi être raisonnable. Rien n'est vain, finalement. De quelle manière pourrais-je vous dédommager? Comment voulez-vous que nous nous organisions? Bien, à présent, permettez que je m'attelle à poursuivre mon récit. Le moment s'y prête. Je viens de faire une petite sieste reposante à souhait et j'ai tout l'après-midi devant moi. Nous revenions à la vie. Nous étions épuisés, affamés et dans un état second mais vivante et avec l'espoir de le rester. À peine avions-nous mis les pieds dans la cour de cette ferme que je sus qu'une trêve s'offrait à nous après le chaos auquel nous venions d'échapper. C'est elle, la vieille, qui nous vit en premier. Elle nous regardait avec insistance à travers les carreaux de sa fenêtre. Martha et moi restions figés devant le portail de bois largement ouvert, comme deux bêtes sauvages prises dans les phares d'une automobile. Nous n'osions pas faire un pas de plus entre frayeur et folle espérance. La bâtisse était grise et sinistre. Et pourtant, ce décor qui eût dû nous paraître accablant avait quelque chose d'accueillant, grâce peut-être à la seule touche de couleur qui provenait du toit où se dressait fièrement une cheminée en briques rouges, ou à la fumée blanchâtre qui s'en échappait, s'étirant gracieusement pour s'évanouir dans l'air frais du soir. Au bout de quelques minutes, un vieil homme apparut sur le seuil. Il nous fit signe d'approcher, nous le rejoignîmes timidement. La première semaine, Martha et moi restâmes murés dans notre mutisme. Nous étions encore sous l'emprise d'une terreur indicible. Alors nous nous taisions. Nos hôtes, qui se prénommaient Marguerite et Engel, ne nous posaient pas de questions. Parfois, leurs yeux cherchaient les nôtres, rien de plus. On tâchait de se deviner au gré des heures qui composaient les jours, les semaines, les mois. Ils étaient vieux, usés, à l'apparence si fragile. Un rien aurait pu les briser comme du cristal. Marguerite passait son temps à guetter par la fenêtre de la cuisine quand elle ne préparait pas la soupe ou la chicorée. Engel, lui, s'occupait de son carré de potager, des quelques poules qu'il leur restait et des bûches qu'il jetait avec effort dans l'âtre. L'après-midi, il somnolait des heures dans son fauteuil usé ou lisait toujours le même vieux journal jauni. Les premiers temps, j'évitais Martha. Elle m'évitait aussi. Je m'attardais dans la chambre. Il m'était extrêmement difficile de dormir à nouveau dans un vrai lit. Souvent, Je me réveillais roulé en boule à même le sol. Gita et Oda continuaient de me hanter et se manifestaient dans d'improbables scénarios dont je ressortais haletante et couverte de sueur. Margit était souvent à mon chevet avec un bol de soupe ou de chicorée selon l'heure de la journée ou de la nuit. Elle me souriait timidement et disparaissait. Lorsque mon état le permettait, je commençais à quitter la chambre en quête de compagnie. Marguerite, dans sa cuisine, préparait toujours la même soupe. Engel attisait encore le même feu. Martha errait aux mêmes heures dans la cour. Nous étions comme immobilisés dans cet espace-temps. Les semaines s'écoulaient, toutes identiques. À croire que toujours le même jour se répétait sans fin. Nous étions hors du monde. Ces instants étaient pareils à un trait d'union, séparant et rassemblant ce qui fut et ce qui sera, sans que nous puissions rien y faire, sans même éprouver le désir qu'il en soit autrement. Il n'y avait que le vrombissement des avions de guerre déchirant le ciel qui parvenait à nous sortir de notre torpeur, alors que nous filions en toute hâte nous réfugier dans la cave. Ensuite, nous remontions comme si rien ne s'était passé. Un matin, alors que nous étions tous les quatre à prendre notre petit déjeuner, Marguerite déclama les premiers vers du roi des Aulnes. C'était bouleversant d'entendre pour la première fois cette petite voix éraillée, tremblante, psalmodiant le chant macabre de l'enfant disparu. Engel fut pris de violents sanglots et quitta rapidement la pièce. Martha resta quelques instants interdite, puis à son tour disparut. Je me levai et pris la vieille dans mes bras. Elle me serra fort et je compris alors combien son chagrin la dévastait. Je compris que c'était lui, cet enfant perdu qu'elle espérait voir revenir quand elle passait des heures à regarder par la fenêtre. Nous restâmes un moment collés l'une à l'autre. Dans ses bras, étrangement, je sentis que je me remettais à vivre. Et en effet, les jours suivants, j'accompagnais Engel dans ses occupations. Je l'aidais à la culture du potager ou à nettoyer le poulailler. J'étais heureuse quand il me laissait aller nourrir les poules et que je leur rapportais des œufs encore tout chauds. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était accompagner Engel au potager. Qu'il en mettait du temps à se courber, à plier les genoux pour arracher une à une les mauvaises herbes égarées entre deux rangées de poireaux ou de rutabaga, ou pour ramasser quelques pommes de terre, un chou, des carottes. Toute sa fortune désormais se trouvait là, dans ses 20 mètres carrés. C'était sa terre nourricière, comme il disait. Il rouspétait contre les limaces ou les escargots venus au festin la veille en laissant derrière eux les traces de leurs méfaits. Vous me croirez ou pas, Sarah, mais je pense encore souvent au potager d'Engel. Il m'arrive même de sentir l'odeur de la terre humide de rosée et celle de la menthe sauvage que l'on cueillait en bouquet pour parfumer la maison. J'aidais aussi Marguerite à la cuisine, m'occupais du ménage, des lessives et faisais en sorte qu'un peu d'amour trouve sa place parmi nous. Au premier jour du printemps, Martha décida de partir. Je n'eus aucune peine à la laisser s'en aller et priai pour qu'elle emporte avec elle nos souvenirs communs. Mes plaies étaient encore trop vives pour que je sois en mesure de quitter cette parenthèse salvatrice. Je ne revis jamais Martha. Chaque jour me rapprochait davantage d'Engel et de Marguerite. À mon tour, je prenais soin d'eux, comme ils avaient pris soin de nous pendant plus de 2 ans, sans jamais rien nous demander en retour. J'avais même réussi à leur confier un peu de mon histoire. Ils écoutaient, silencieux, sans jamais me juger. Ils avaient compris depuis le premier jour. Ils savaient. Engel quitta la ferme tôt, un matin de septembre, et en revint 3 jours plus tard accompagné d'un garçon au regard très bleu et à l'allure robuste, Klaus. Le beau Klaus connaissait le coin comme sa poche. Il connaissait aussi le chemin pour rejoindre la capitale allemande en évitant le pire et avait apparemment quelques personnes de sa connaissance placées aux bons endroits. Klaus allait m'aider à rejoindre Berlin et était prêt à faire le nécessaire pour faciliter mon passage en France. Je regardais Engel, le cœur si plein de gratitude que je fus incapable de le manifester autrement que par des sanglots. Ses mains calleuses caressèrent mon visage. Je les pris dans les miennes et les serrai fort. Tout était dit, sans besoin de mots. Pour célébrer mon départ, Marguerite prépara une délicieuse tarte à la rhubarbe. Quand un soir du même mois vint le moment de quitter la ferme, le soleil déclinait doucement. Je serrai fort mes bienfaiteurs dans mes bras, fort à les briser. Je franchis le portail, un sac en bandoulière, les larmes dégoulinant de mes joues. Je ne me retournai pas. Je n'avais aucun mal à les imaginer tous deux sur le seuil, si tristes. Ils devaient prier pour que j'arrive à bon port. Comme il était beau, ce couple de vieux, comme ils étaient bons. Dans mon cœur à jamais, Marguerite et Engel. À vous lire, tendresse, Hectorine. Paris, samedi 22 octobre, soleil timide. Ma chère Sarah, comme vous avez pu le remarquer, je suis passée jeudi. Cela faisait des décennies que je ne m'étais pas laissée mollir dans l'eau chaude d'une baignoire. J'en avais oublié les bienfaits. Je me suis même assoupie, c'est vous dire. J'en suis ressortie toute fripée, mais tellement détendue. Je ne vous cache pas mon étonnement en découvrant votre appartement. C'est simple, je n'ai rien reconnu. Votre arrière-grand-mère aurait été heureuse de cet embellissement. C'est une réussite. Je vous livre un bout de mon histoire. Où en étais-je déjà? Ah oui, j'ai quitté mes très chères Marguerite et Engel en compagnie de Klaus pour rejoindre la capitale. Lorsque nous arrivâmes à Berlin, nous fûmes saisis d'effroi. Il ne restait plus grand-chose de ce que j'avais connu. Les bombardements avaient tout dévasté. La ville agonisait lentement. L'immeuble dans lequel j'avais vécu avec mes parents était en partie détruit. Nous pûmes quand même pénétrer dans l'appartement. Il avait été pillé. Il ne restait rien. Comme pour témoigner de ceux qui avaient vécu là, il y avait par terre, au milieu de la poussière et des débris de verre, une photo sur laquelle je souriais, assise entre mes parents. Sur les conseils avisés de Gita, j'avais caché sous une des lattes du parquet de ma chambre mes papiers d'identité. Quel soulagement de constater qu'ils s'y trouvaient toujours. En passant devant la chambre de mon père, je me demandais ce qu'il était devenu. Peut-être avait-il réussi à fuir, à passer la frontière pour se réfugier en France. Rêver, espérer, c'est à peu près tout ce qui me restait. Klaus et moi quittâmes rapidement cette ruine rongée et puante qu'était devenue Berlin pour rejoindre Paris où je souhaitais vivement pouvoir m'installer. Nous devions nous séparer place de Clichy. Je n'étais plus très loin de Montmartre. J'allais pouvoir rejoindre ma Pôle. Avant de nous quitter, nous prîmes un café dans un bar à l'angle de la rue d'Amsterdam. Des hommes au verbe haut occupaient toute la longueur du zinc. Nous nous attablâmes au fond de la salle et malgré cela, nous avions du mal à nous entendre tant leur conversation mêlée au tintement des verres était bruyante. Juste avant de me quitter, Klaus me donna une enveloppe dans laquelle il avait glissé un peu d'argent. Il me prit dans ses bras et me souhaita bonne chance. Notre étreinte fut longue et chaleureuse. Klaus ne fit que passer dans ma vie. Et pourtant, il me semblait le connaître depuis toujours. Il me regarda une dernière fois avant de disparaître. Je restais là, complètement perdue, me sentant soudain seule, toute seule face à l'inconnu. J'éprouvais cette peur, vous savez, cette peur qui coupe les jambes, laboure les entrailles et immobilise le regard. Puis ma Pôle me revint en mémoire. Montmartre. Un peu avant d'arriver chez ma Pôle, j'avais imaginé nos retrouvailles. Et mon cœur se mit à battre plus fort, quand je m'engouffrais sous la porte cochère de l'immeuble. Je me souviens d'avoir grimpé les étages 4 à 4, de m'être arrêté un moment devant la porte, reprenant mon souffle avant de donner les 3 petits coups annonciateurs. C'est une jeune femme avec un bébé dans les bras qui vint m'ouvrir. Je pensais m'être trompée, mais très vite elle m'expliqua que la dame que je cherchais avait été retrouvée morte l'année dernière et que depuis c'est elle avec sa famille qui occupait l'appartement. Dans ses bras, l'enfant se mit à pleurer très fort, comme s'il avait ressenti ma peine et l'exprimait à ma place. J'arrivais trop tard, bien trop tard. Qu'avais-je imaginé? Qu'elle serait là à m'attendre après toutes ces années? La porte se referma. Je restai sans bouger, assommée par la nouvelle. Il me fallut du temps pour redescendre les étages, cramponnée à la rampe pour éviter la chute. Je quittai l'immeuble, Montmartre, sans trop savoir où mes pas me guidaient. Il ne me restait plus qu'à prier. J'espérais que la Providence me fasse un signe. C'est place de la République qu'elle se présenta à moi. J'étais là, à attendre de pouvoir traverser le boulevard. Une femme, accompagnée de ses enfants, attendait aussi. Subitement, le petit garçon lâcha la main de sa mère et s'élança sur la chaussée. J'eus à peine le temps de le saisir par le bras et de le ramener sur le trottoir avant qu'une automobile ne le fauche. Dans un réflexe ordonné par la peur, la mère gifla son enfant. Ensuite, elle se retourna vers moi et me remercia chaleureusement avant de s'écrouler en larmes dans mes bras. Elle semblait désemparée, épuisée. Le petit garçon vint se coller contre moi et me prit la main. Sans que je puisse me l'expliquer, nous nous retrouvâmes toutes deux assises sur un des bancs du jardin public, à 2 rues de la place, suivant des yeux les gosses qui jouaient. Cette femme élégante, à peine plus âgée que moi, s'appelait Lucie. Je la laissai parler, puis, tout naturellement, je me mis à en faire autant. Tandis que je racontais mon calvaire, je vis les yeux de Lucie s'emplir de larmes. Étrangement, je restais insensible à l'évocation de mon malheur. J'étais comme scindé en deux, dissocié de cette histoire que je lui livrais sans pudeur ni retenue. J'avais volontairement occulté Gita. Elle était mon secret. Il fallait que je sois désespérée et totalement inconsciente pour me laisser aller ainsi. Elle aurait pu me dénoncer dans la seconde, moyennant quelques tickets de rationnement supplémentaires. Il n'en fut rien. Après que j'eus terminé de m'épancher, elle eut ce geste tendre et réconfortant que je n'oublierai pas. Elle prit ma main dans la sienne. Il y eut un long silence. L'une comme l'autre avions besoin de ce temps pour nous remettre doucement de nos émotions. Quand nous quittâmes le jardin, elle m'avait déjà invité à dîner et proposé d'aller avec elle récupérer ses 4 autres enfants qui n'allaient plus tarder de finir leur journée d'école. Nous ne fûmes pas trop de deux pour nous occuper de ce joyeux petit monde. Le soir, je fis la connaissance de Pierre, son époux, dans leur grand appartement qui donnait sur le boulevard Voltaire. Son regard respirait la bonté et l'intelligence. Il était médecin urgentiste à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu et, d'après ce que m'en avait dit Lucie, il travaillait énormément et regrettait de n'avoir guère de temps à consacrer à sa famille. Sa pauvre femme devait assumer seule l'éducation de leurs 6 enfants et l'intendance de la maison. Lucie fit à Pierre le récit de notre rencontre. Il m'examina du regard, puis me serra la main avec chaleur. Nous attendîmes en bavardant que les enfants soient couchés, puis nous dînâmes tous les 3 jusque très tard. Au matin, je m'éveillai dans ce nouveau décor avec le souvenir de notre conversation de la veille. Ils m'avaient proposé de rester quelque temps chez eux, en échange de quoi j'aiderais Lucie. J'avais reçu leur proposition comme un signe de la Providence. Je me souviens de cette merveilleuse matinée. Il y avait longtemps que je n'avais pas ressenti une envie si forte de vivre. J'accueillais cette nouvelle journée comme un cadeau précieux, avec une joie toute neuve, le cœur gonflé d'espoir. Voyez-vous, Sarah, il aurait été difficile pour moi, après cette rencontre, de croire encore que tout ici-bas n'est qu'accident et fruit du hasard, alors que quelques heures avant de rencontrer Lucie, je priais pour qu'advienne quelque chose dans ma vie. Affectueusement, Hectorine. Samedi 5 novembre, fin de journée. Ma très chère Hectorine, Anna s'est mise à me parler de mon arrière-grand-mère. D'abord, elle m'a posé des questions. J'ai éludé en lui expliquant que je ne l'avais pas connue. Alors, elle a commencé à me parler de vous et de Lane, de votre amitié. Oui, apparemment, vous étiez amis. Je peux vous dire que j'ai eu du mal à dissimuler ma surprise. Elle m'a raconté que vous étiez souvent l'une chez l'autre, que vous faisiez vos courses ensemble avant qu'elle ne décède. Vous étiez devenus inséparables. Vous et mon arrière-grand-mère inséparables? Évidemment, moi, pendant ce temps, je m'efforçais de ne rien montrer du trouble que ces paroles provoquaient pour ne pas vous trahir. Et oui, j'en étais encore à vous protéger, alors que dans vos lettres, vous me dites ne pas connaître Lane et dresser d'elle un portrait abject. Pourquoi me mentez-vous? Qui êtes-vous, Hectorine? Elle m'a également dit que vous aviez beaucoup changé depuis la mort de Lane, que vous n'étiez plus l'Hectorine joyeuse et bienveillante que tous avaient connue. Que depuis, vous êtes devenue silencieuse, taciturne et restée enfermée chez vous, allant jusqu'à refuser tout contact. S'il vous plaît, Hectorine, racontez-moi. Je peux comprendre que la mort d'une amie puisse rendre triste. Je ne vous en veux pas, je vous le promets, mais je veux comprendre. J'attends de vous lire avec beaucoup d'impatience. Prenez soin de vous, affectueusement, Sarah. Paris, dimanche 6 novembre, soleil d'automne. Ma très chère Sarah, le temps presse. Je poursuis mon récit sans plus attendre. Consciente de ma situation fort précaire, j'avais fini par accepter ce poste de gouvernante à temps plein que m'avaient proposé avec beaucoup d'insistance Lucie et Pierre. Ma réponse les avait tant réjouis qu'un instant, j'avais trouvé cela suspect. Mais je fus rapidement rassurée, car tout chez eux respirait le calme et la sérénité. Pierre me répétait souvent que ma beauté et ma gentillesse lui emplissaient le cœur de joie et que cela l'aidait à supporter son quotidien aux urgences de l'hôpital. Jamais ses yeux ne trahirent la moindre arrière-pensée. Jamais il n'eut un geste déplacé. Et pendant ce temps, mon amitié pour Lucie et ses enfants grandissait un peu plus chaque jour. Chaque jour, il y avait la maison et les gosses dont il fallait s'occuper, mais toujours dans la bonne humeur. Le reste du temps, nous le consacrions à notre passion partagée pour la littérature et la peinture impressionniste. Je retiens de Lucie ce trait de caractère particulier qui lui faisait éprouver une reconnaissance sans limite pour les peintres dont l'œuvre l'a transportée. Il émanait d'elle une ingénuité qui me touchait énormément lorsque, tout en décrivant telle toile de Monet qu'elle adorait, elle lui envoyait des baisers en regardant le ciel. J'ai accompagné et aimé tendrement cette merveilleuse famille pendant presque une dizaine d'années. Un des derniers étés que nous passâmes ensemble, Pierre avait décidé que nous séjournerions un week-end dans la maison de Deauville qu'il venait d'hériter d'une vieille tante. Il avait convié un couple d'amis à nous y rejoindre. Le mari était un éditeur réputé dont j'admirais les choix éditoriaux et le travail. J'étais impatiente de le rencontrer. C'est comme cela qu'un après-midi, tandis que Lucie, les enfants et moi rentrions d'une longue promenade en bord de mer, une somptueuse voiture grise s'arrêta à notre hauteur. Lucie me présenta Louise et Bernard. Je fus très intimidée par la prestance de l'éditeur. Louise, son épouse, semblait plus effacée. Au moment où je lui fus présentée, je remarquai la bien étrange façon qu'elle eut de me regarder. Elle ne prit même pas la peine de me serrer la main, ce qui n'était pas très engageant. Je prétextai le goûter des enfants pour m'éclipser et filai dans la cuisine retrouver la petite troupe joyeuse qui piaillait d'impatience. Mais à un moment, il fallut bien que je rejoigne les grands. Nous nous installâmes tous les cinq sur la terrasse et suivîmes pendant quelques minutes le magistral spectacle du coucher de soleil sur l'onde immobile, tout en dégustant un délicieux champagne offert par Bernard. Puis, grisés de fines bulles, nous nous mîmes à table. Bernard, qui aimait plus que tout parler de sa maison d'édition, qu'il avait fondée lui-même 20 ans auparavant, se félicitait d'avoir découvert une perle rare dont l'essai anthropologique, qui serait publié à la prochaine rentrée, avait toutes les chances de remporter un franc succès et de rafler quelques prix. Ravi de cette stimulante conversation, je buvais chacune de ses paroles. Ensuite, Louise prit le relais. Je remarquai l'éclat de ses yeux qui se mirent à pétiller dans la nuit dès qu'elle évoqua son travail de peintre. Elle parla longuement de ses modèles, avec lesquels j'eus l'impression qu'elle entretenait des relations particulières, et aussi des cours de dessin qu'elle prenait à la Grande Chaumière. C'est ce soir-là que j'entendis pour la première fois parler de peintres qui fréquentaient alors le quartier de Montparnasse. Zaouki, Balthus, Yves Klein, avec son fameux bleu, dont les peintures monochromes n'étaient pas toujours bien comprises, Sam Zafran et d'autres encore. Cela m'avait tant manqué. J'avais tout à découvrir de la vie artistique parisienne. Louise, cette femme qui m'avait fait si mauvaise impression, au premier abord, eut au fait de me conquérir. Comme quoi, moi qui suis convaincue aujourd'hui encore que la première impression est toujours la bonne, Louise fut la vivante exception qui confirma la règle. C'était une artiste jusqu'au bout des ongles, qu'elle avait toujours impeccablement nette, et son enthousiasme était aussi délicieux que contagieux. Une étoile filante traversa le ciel d'été, et je suivis sa trajectoire avec tant d'intérêt que j'en oubliais de faire un vœu. C'est drôle comme je me rappelle ce détail. Ainsi, ma mémoire fonctionne-t-elle à plein? Ou alors je brode? Non, ma chère petite. La preuve, je me souviens parfaitement qu'après le passage de l'étoile, les conversations s'étaient épuisées dans la tiédeur du soir et que Pierre et Bernard avaient rejoint le petit salon où les attendaient cognac et cigares. Lucie, prise de migraine, était montée se coucher. Je m'attardai sur la terrasse pour profiter de la douceur du soir, lorsque dans la pénombre j'aperçus Louise, adossée à un mur, un châle sur les épaules, un fume-cigarette à la main. Je restai un moment indécise, ne sachant si je devais rebrousser chemin pour la laisser tranquille. Elle me sourit après avoir tiré une longue bouffée qui s'échappa de ses lèvres en volutes de fumée montant dans l'air comme de l'encens sacré. Nous étions face à la mer. Brisant le silence, elle me demanda si j'avais déjà posé pour un peintre. Sans attendre ma réponse, elle se rapprocha de moi et déposa un baiser sur ma joue. Puis, elle disparut. Plus tard, je devins une amie du couple. J'allais parfois, pour le plaisir, faire le modèle dans l'atelier de Louise. Quand la date d'une exposition se rapprochait, elle pouvait rester enfermée plusieurs semaines dans son atelier. Elle travaillait sans relâche le jour comme la nuit, s'autorisant quelques petites heures de sommeil quand ses yeux n'en pouvaient plus de fatigue. Les premiers temps, j'eus bien de la gêne à me défaire de tous mes vêtements lorsque Louise m'en priait. Je me sentais godiche, mal dans ma peau, me trouvant trop grande, trop maigre, disgracieuse. Alors, elle s'approchait de moi et, avec une infinie délicatesse, me repliait le bras sur la poitrine, arrangeait une mèche de mes cheveux. Consentante et à sa merci, je devenais, le temps d'une séance, mannequin de bois que l'on manipule à sa guise. Un soir, après avoir vérifié la pose qu'elle m'avait demandé de prendre, elle parcourut de la pulpe de son index la longue ligne qui partait du bas de mon menton et descendait le long de mon cou en passant par mon sein, mon ventre, ma cuisse, jusqu'à la pointe de mon pied. Que nous arrivait-il? Enivrés par un trouble naissant mêlé aux vapeurs d'essence de térébenthine, nous sombrions peu à peu dans une dimension éthérée. Bientôt, serrées l'une contre l'autre sur la méridienne de fortune, sous les plis voluptueux d'un tissu de soie, nos mains se cherchèrent, nos corps se fondirent l'un dans l'autre, consumés en une fièvre exquise. Un rayon de soleil m'éveilla au petit matin. Louise était déjà face à son chevalet, penchée, concentrée sur sa toile, des pinceaux dans chaque main. Lorsque me revint le souvenir de notre nuit, je me levai en trombe et partis comme une voleuse, le rouge aux joues. Louise et moi ne reparlâmes jamais de ce moment d'abandon et je ne remis plus les pieds dans son atelier. Un peu plus tard, lors de son vernissage dans une galerie de Saint-Germain-des-Prés, je fus flattée de me voir exposer toute chair offerte sur quelques-unes des toiles accrochées au mur. Personne ne sut jamais que j'en étais l'inspiratrice. À cette époque-là, je continuais d'aider Lucie et de m'occuper des enfants jusqu'au jour où Bernard me confia mon premier ouvrage à traduire. Là encore, je me rappelle très bien. C'était un livre superbe sur Henri Matisse, écrit par un critique d'art allemand. Satisfait de ma traduction, Bernard me proposa presque aussitôt un emploi à temps plein. Je lui suis reconnaissante de m'avoir tout appris du métier. Cependant, au fil du temps, je découvris un aspect moins reluisant de sa personnalité. Je l'avais surpris plusieurs fois en train d'user de son emprise sur de jeunes femmes auteurs en leur promettant monts et merveilles dans l'unique but de les attirer dans son lit. Il arrivait même que les plus audacieuses viennent réclamer leur dû dans nos bureaux. Mais la secrétaire, qui connaissait les travers du patron, leur faisait barrage. Il va de soi que je ne pus souffrir longtemps la récurrence de ces odieuses pratiques. Je n'en touchais moi personne, et surtout pas à Louise. Vous êtes la première à qui j'en parle, Sarah. Depuis que je travaillais dans la maison d'édition de Bernard, j'avais quitté Lucie, Pierre et les enfants. Je savais combien Lucie en était affectée, mais aussi souvent que possible, dès que mon emploi du temps me le permettait, j'allais avec elle chercher les enfants à l'école. Je me sentais enfin prête à recommencer quelque chose. J'avais envie de vivre, d'exister pleinement. J'avais de la chance, je ne pouvais le nier. La Providence avait placé sur mon chemin des gens merveilleux. Mais désormais, je voulais voler de mes propres ailes, sans aucune entrave. Il est temps à présent de vous laisser, ma chère Sarah. Je suis fatiguée, mes mains me font souffrir. J'ai suffisamment écrit aujourd'hui. Tendresse, Hectorine. Lundi 14 novembre, insomnie. Bonsoir, Hectorine. Combien de temps encore vais-je devoir attendre ? C'est presque insupportable. Quand allez-vous répondre à mes questions ? À moins que vous ne fassiez exprès de me laisser mariner. Je ne vous imagine pas dans le rôle de bourreau et je ne tiens pas à tenir celui de supplicié. J'ai du chagrin, Hectorine. Tout ça ne ressemble pas à l'idée que je me suis faite de vous. Ma demande me semble légitime. Il s'agit quand même de mon arrière-grand-mère. Comprenez-moi, je me sens perdue. Vous me manquez. Donnez-moi de vos nouvelles. Affectueusement, Sarah. Paris. Mercredi 16 novembre, pluie fine. Sarah. Si vous saviez combien je comprends votre impatience et que mes cachotteries puissent vous mettre hors de vous. Bientôt, Sarah, bientôt. Nous y sommes presque. Continuez de me faire confiance. Vous connaissez mon affection pour vous. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Cependant, il m'est de plus en plus difficile de vous écrire. Je suis très fatiguée en ce moment et mes rhumatismes me font souffrir. J'aurai 104 ans dans 15 jours. Vous rendez-vous compte ? Il me reste encore beaucoup de choses à préparer. J'ai le sentiment que le temps s'accélère. C'est pourquoi, sans plus attendre, j'avais décidé de vendre le petit appartement que j'occupais place de la Bastille pour acheter celui où je vis aujourd'hui. Louise était propriétaire d'un deux pièces dans le Marais dont elle souhaitait se défaire. Je sautais sur l'occasion. En le visitant, j'eus un véritable coup de cœur. L'affaire fut réglée rapidement et très vite je pus m'y installer. Cela fait maintenant 54 ans que je suis dans ces murs et je n'ai jamais eu envie d'autre chose, pas plus que de quitter ce quartier que j'adore. Dans l'immeuble à l'époque, il n'y avait encore aucun des habitants que vous connaissez. comme il me plaisait d'assister aux emménagements. Je n'avais pas la patience d'attendre que les nouveaux occupants viennent se présenter. À chaque fois, je prenais les devants avec toujours une douceur à offrir en cadeau de bienvenue. C'était un samedi matin. Il devait être 9h du matin, je revenais à la maison quand un gros camion se gara juste devant l'entrée de l'immeuble. Des hommes en descendirent. Ils ouvrirent les portes arrière et commencèrent à décharger meubles et cartons qu'ils entreposaient avec empressement dans le hall d'entrée. Cet événement me remplit de joie. J'avais hâte de rencontrer les nouveaux voisins et sans plus tarder, je me suis mis en cuisine pour leur préparer quelques madeleines. Je décidai d'aller rencontrer les nouveaux venus. On m'ouvrit la porte. Je n'eus pas le temps de me présenter qu'aussitôt. C'était une femme assez âgée. Elle disparut au fond du couloir, les bras chargés d'un gros carton. Un véritable désordre régnait dans l'appartement. Et voyant que le moment n'était pas opportun pour des présentations sans plus attendre, je m'en allai en criant que je repasserais plus tard. Je refermai la porte derrière moi, mon assiette de madeleine toujours à la main. « Mais vous laissez pour aujourd'hui, Sarah. » Affectueusement, Hectorine. Samedi 18 novembre, matin. Bonjour Hectorine. Merci pour votre lettre. J'ai tellement de questions qui me viennent au sujet de mon arrière-grand-mère. Mais je patiente, promis. Avez-vous besoin de courses? Quelques boîtes de thon? Prenez soin de vous. Affectueusement, Sarah. Commencé le 28 novembre, achevé ceux de décembre. Ciel ouvert, disposé à m'accueillir. Ma bien-aimée Sarah, vous n'avez pas oublié mon anniversaire. Merci de tout mon cœur, votre bouquet était magnifique. Je suis infiniment touchée. Je regarde ma vieille barlette avec tendresse. Je sais, en cet instant précis, que bientôt mes doigts ne la caresseront plus. Ceci est ma dernière lettre. Je vous l'avais promise, je tiens toujours mes promesses. Je sais combien l'ignorance des choses peut être bien plus douce que la vérité. D'avance, pardon pour les émois que ces confessions vous causeront. Pardon pour la peine, la déception, mais aussi pour tous les mensonges du début. Il fallait que je m'assure que vous étiez bien l'arrière-petite-fille de Laine. Je veux croire que vous comprendrez. Lisez, ma chérie, lisez attentivement. Mais avant de vous plonger dans cette dernière lecture, promettez-moi, au nom de notre incroyable et néanmoins merveilleuse amitié, de respecter scrupuleusement ce que je consignerai plus bas. Je continue donc. J'avais décidé d'attendre quelques jours avant de rencontrer cette nouvelle voisine. Les bruits au-dessus de ma tête avaient fini par se calmer. J'en avais déduit qu'elle devait être à peu près installée. Je suis donc montée avec les mêmes madeleines préparées pour l'occasion, qui avaient entre-temps, il est vrai, perdu un peu de leur moelleux. Mais je répugnais à me présenter les mains vides. Chaque nouveau venu avait eu droit à mes madeleines. Il n'était pas question que je déroge à la règle que je m'étais fixée. Je frappai trois petits coups secs. Elle ouvrit. Ses yeux, je ne vis que ses yeux. Je n'avais pas remarqué la première fois. Ce regard si particulier, si singulier. Quelque chose d'invisible frappa violemment ma poitrine. Je dus bafouiller quelque chose. Elle m'invita à entrer en s'excusant de me recevoir au milieu du désordre. Rien en dehors de quelques meubles n'avait encore trouvé sa place. Je lui tendis les madeleines, qu'elle considéra rapidement avant de les poser sur la table, déjà encombrée par une multitude d'objets. Je pris place dans un des fauteuils qu'elle me désigna. J'éprouvai quelques difficultés à dissimuler ma confusion. Elle avait l'air tellement omnibulée par le bazar ambiant qu'elle ne sentait pas le poids de mon regard sur elle ni le trouble qui m'oppressait. J'eus à peine le temps de trouver un sujet de conversation qu'aussitôt elle m'interrompit pour me demander quelques conseils d'agencement. Puis, je l'aidai à déplacer un meuble, à défaire quelques cartons remplis d'une mauvaise littérature. Je plaçai machinalement quelques livres sur l'étagère d'une bibliothèque pas totalement montée. Je n'étais pas à ce que je faisais. Mon cerveau en branle sondait les tréfonds de ma mémoire. J'étais totalement absorbée dans mes souvenirs lorsque, soudain, elle posa sa main sur mon épaule. Mon corps entier se raidit, traversé par une décharge électrique qui parcourut mon échine. Elle perçut mon malaise et quitta la pièce. J'en profitai pour prétexter une urgence. Lorsqu'elle réapparut dans le couloir, j'avais déjà franchi la porte d'entrée. Elle semblait embarrassée. Je pris un air désolé et lui promis de revenir dans la semaine. De retour chez moi, je m'assis à mon bureau, totalement bouleversée. J'en étais sûre. C'était ses yeux, l'éclat particulier de ses yeux. Il me fut impossible de faire quoi que ce soit d'autre que retrouver les traits exacts de ce visage dont je savais qu'il était resté gravé à jamais quelque part dans ma mémoire. Bien sûr, je ne retournais pas la visiter, comme je le lui avais promis. Je restais cloîtrée pendant 2 longues semaines, ne dormant pratiquement plus et me nourrissant par obligation. Je ne pensais qu'à ça, rien d'autre ne comptait. Les yeux de ma nouvelle voisine m'obsédaient. Je fouillais, retournais, torturais ma mémoire pour me souvenir. Puis un matin, enfin, j'en fus certaine. Sa tignasse rousse avait blanchi naturellement. Je ne reconnaissais pas non plus les traits de son visage, mais son regard, lui, restait inchangé. C'était elle. Elle qui avait exigé de faire partie de l'évasion sous peine de nous dénoncer. Elle qui avait tué mon Oda. Mais que faisait-elle là? Pourquoi elle? Justement elle? Je vous épargne, Sarah, les réactions physiques qui se sont succédées. Violents maux de tête, nausées, vertiges jusqu'à l'évanouissement. Quand je fus à nouveau sur pied, pleine de cette volonté qui m'avait tant de fois permis de me relever, je décidai de lui rendre à nouveau visite. Un après-midi, j'allai sonner chez elle. Elle m'ouvrit en affichant un large sourire. Une fois dans l'appartement, je vis que tout était en ordre et plutôt joliment arrangé. Elle me fit visiter son antre avec une sorte de fierté. Tout en la félicitant, j'observais chacune des pièces avec attention, cherchant un indice, une preuve qui pourrait renforcer, si besoin était, ma certitude. Elle proposa de nous servir une tasse de thé. Je la suivis dans la cuisine, j'épiais chacun de ses gestes. C'est alors qu'il y eut comme une superposition du passé dans le présent. Je revoyais cette femme, dont désormais je connaissais le prénom. Elle s'appelait Lane, avec ses boucles rousses, nous tendre des étuis de cuir noir en nous prévenant que les armes avaient été correctement chargées. Ces images de cauchemar affluaient comme les eaux troubles d'une rivière que des pluies diluviennes ont fait sortir de son lit. Je ressentais exactement cette même peur qu'à l'époque. Ma colère grandissait. Mon envie de vengeance me soulevait l'estomac. Je dus regagner le salon et m'asseoir afin de retrouver mes esprits. Elle revint chargée d'un plateau qu'elle posa sur une petite table. Et toujours ces images qui me remuaient l'âme. Le corps d'Oda qui s'affale, le coup de feu, et cette femme pédalant comme une folle en direction de la forêt. Nous bûmes le thé. Au prix d'efforts surhumains, je réussis à donner le change. Je lui parlais de l'immeuble, de ses habitants, du quartier, lui confiais les bonnes adresses de commerce, de bouche, celles des bains publics, puisque son appartement n'était pas non plus pourvu de salle de bain. Elle continuait de me raconter son emménagement et tous les tracas qu'elle avait endurés. Je l'écoutais distraitement. Ces histoires sans intérêt me parvenaient de façon lointaine, tandis que je revivais en boucle la mort de Oda. Je ne la quittais pas des yeux. Il fallait que ça sorte. Mais auparavant, je devais me calmer, trouver le bon moment pour aborder le sujet. Si étrange que cela puisse vous paraître, Sarah, ce moment ne se présenta pas. Je n'eus jamais le cran de lui parler. Pas plus ce jour-là que les semaines et les mois suivants. Inlassablement, je reportais au lendemain. Cela dura des années. J'étais acculée comme prise au piège, tiraillée entre la certitude et le doute. Un calvaire, voilà ce que je m'infligeais. Souvent, j'eus envie de la pousser dans l'escalier lorsque nous nous rendions quelque part. Parce que nous en étions venus à nous trouver des occupations communes. Nous faisions nos courses ensemble, nous allions au bain ensemble, à la bibliothèque. Nous faisions un tas de choses ensemble. Là aussi, vous devez vous demander pourquoi je m'imposais cette épreuve. Pourquoi ? Je continuais d'espérer que le courage me viendrait, que surgirait le moment où, forcément, au détour d'une conversation, je pourrais vider mon sac. À d'autres époques, d'autres périodes, je faisais tout mon possible pour me débarrasser de ce poids. Je vous assure, Sarah, je ne sais combien de fois je priais pour que ma mémoire efface cet épisode sordide. À 1000 reprises, je voulus me convaincre que ce n'était pas elle, que je me trompais. Mais jamais, hélas, jamais je ne pus m'en convaincre. D'autres fois encore, je cherchais de toutes mes forces le courage de lui pardonner. Mais rien ne changeait, je la haïssais de toutes mes forces, et ce, chaque jour davantage. J'imaginais toutes sortes de scénarios d'accidents mortels. Je prenais un malin plaisir à mettre en scène sa mort, à me fabriquer des alibis sans faille. C'était une façon d'expurger, de me débarrasser d'images insupportables qui revenaient inlassablement, de calmer mon besoin de vengeance. Je balançais entre le désir de la voir mourir et la terrible vision d'Oda glissant mollement contre le mur, la poitrine ensanglantée. Cela m'éreintait, et je n'étais pas sûre de pouvoir y survivre. Quand je sentais que la folie me rongeait trop le cerveau, que j'aurais pu lui sauter à la gorge, lui arracher les yeux et l'étrangler jusqu'à ce qu'elle en crève, je me claquemurais, prétextant une fatigue. Il m'arrivait aussi de perdre le contrôle de mes pensées, de me figurer qu'elle se jouait de moi. Je l'entendais se moquer de ma lâcheté, parfois même en ma présence. À l'évidence, elle m'avait reconnue. Elle savait que je savais, et se délectait de me voir ainsi, minable, empêtrée dans mes peurs et mes doutes. Je crus perdre la raison tellement de fois, Sarah. Je devenais méfiante, suspicieuse plus qu'à l'ordinaire. Je sombrais dans une espèce de paranoïa. J'étais la proie de mes propres délires, constamment sur mes gardes, prête à bondir, à riposter. Je sortais toujours armée d'une bombe lacrymogène ou d'un couteau. Je me fabriquais des armes insoupçonnables que je dissimulais dans mon sac, dans mes poches, sous ma robe, jusque dans mes sous-vêtements. Lorsque nous prenions le thé chez elle, je faisais en sorte de la distraire pour échanger nos tasses et j'attendais systématiquement qu'elle eût bu une première gorgée. Un calvaire, Sarah. Une véritable torture. Voilà ce qu'a été ma relation avec votre arrière-grand-mère. Un soir, enfin, je me décidai à l'inviter à dîner. Après quelques verres, désinhibé, alangui, je me laissais aller à me raconter tout en prenant grand soin de maintenir un climat rassurant et convivial. Je lui parlais de ma naissance à Berlin, de l'Allemagne, de la guerre. Elle s'y mit elle aussi. Elle me confia en pleurnichant que sa vie n'avait été que misère et souffrance et que le mauvais sort ne l'avait pas épargnée. Avec un ton dégoulinant, elle usa de formules toutes faites, creuses et stupides, de celles que l'on trouve dans les romans à l'eau de rose qu'elle lisait avec tant de plaisir certains après-midi. Elle me parla de cet homme si beau qu'elle avait rencontré, un résistant dont elle était devenue la femme et qui avait été arrêté puis exécuté juste avant la libération de Paris. Elle se découvrit alors enceinte, mais son état de santé ayant empiré, elle ne put élever sa fille. C'était des plaintes à n'en plus finir. À l'entendre, la vie s'était acharnée sur elle. Ses amis, en plus de l'avoir accusée à tort d'être une mère indigne, l'avaient purement et simplement laissée tomber. Elle, qui croupissait dans son lit d'hôpital, où personne ne venait jamais la voir. Elle avait essuyé tant de calomnies et d'injustices qu'à bout de force, elle avait fini par baisser les bras et n'avait plus jamais cherché à revoir sa fille. Elle n'était pas sans ignorer l'existence d'une petite fille et d'une arrière-petite-fille. Elle me raconta aussi son mariage, par la suite, avec un gentil boulanger, avec qui elle vécut presque heureuse une 30aine d'années. Mais 2 ans avant qu'elle ne vienne s'installer ici, il fut terrassé par un cancer du pancréas. Elle dut vendre leur pavillon de banlieue, devenu trop grand, pour elle seule. Dans un sanglot étouffé, elle m'avoua que l'amitié que je lui témoignais était une bénédiction, qu'elle me considérait comme une sœur, comme sa sœur. Son unique famille. Lorsqu'elle s'interrompit, je ne pus détacher mon regard de ses lèvres, médusé par l'incroyable numéro qu'elle venait de me servir avec une aisance déconcertante. Et dans ma tête, toujours les mêmes images d'horreur qui tambourinaient. Je la maudissais. En plus d'être ce qu'elle était, l'odieuse, l'infâme, était une comédienne incroyablement douée. Elle excellait dans le rôle de la pauvre vieille qui n'a pas eu de chance dans la vie. Elle savait y faire et les gens la plaignaient, la consolaient. Elle avait en permanence ce regard de chien battu et faisait exprès de marcher en traînant la patte, accompagnant tous ses gestes de grimaces douloureuses. Elle se jouait de tout et de moi en particulier. Cela fonctionnait aussi très bien avec cette femme qui venait lui rendre visite le jeudi. Je n'ai jamais su qui elle était, ni comment elle s'était rencontrée. Ce soir-là, toujours, alors qu'elle s'apitoyait sur son sort, regrettant de ne pas avoir de petits-enfants à faire sauter sur ses genoux, je lui suggérai habilement de rédiger un testament. Dans les jours qui suivirent, elle se rapprocha d'un notaire pour coucher ses dernières volontés. Sur mon conseil, vous deveniez son héritière, Sarah. Je vérifiai que l'acte avait été rédigé en bonne et due forme et l'accompagnai chez le notaire pour être sûre qu'elle ne changerait pas d'avis. Je me disais que de la sorte, elle réparerait un tant soit peu ses torts et manquements à l'égard de sa descendance. Je fus bien inspirée, n'est-ce pas, Sarah? Puis, il y eut ce fameux autre soir. Je venais de finir de préparer une soupe. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre, si ce n'est que je ne me sentais pas comme d'habitude. J'étais habitée par une énergie indéfinissable. Je n'étais plus la même, je me sentais plus forte, débarrassée de mes peurs, de mes appréhensions. Je compris que le moment était venu. Je montai la voir avec une bouteille de Pinot des Charentes qu'une amie m'avait rapportée de vacances. Nous n'avions pas de rendez-vous. Je lui proposai un apéritif improvisé. Je savais qu'elle ne refuserait pas. Tout ce que je pouvais faire ou dire trouvait grâce à ses yeux. Nous bûmes un peu. Je remplissais son verre régulièrement et l'accompagnais à l'orée d'une douce ivresse, juste ce qu'il fallait pour la disposer à m'écouter, à se souvenir, à répondre à mes questions sans mentir, sans jouer, sans tricher. Je lui fis mon récit sur un ton glacial, lui racontai mon arrestation, la prison, le camp, Oda, notre évasion. Elle me regardait avec de grands yeux ronds. Tout avait été dit d'une traite, sans aucune hésitation, dans une précipitation maîtrisée. À la fin, tandis que je reprenais mon souffle, je vis que ses yeux étaient embués, que ses mains tremblaient légèrement. Incapable de prononcer quoi que ce soit, elle resta un instant bouche bée, me fixa de son œil humide. Je me souviens de m'être levée et plantée bien face à elle, restée assise. Je profitai de cet avantage pour essayer de l'intimider, la menacer d'un regard plongeant. Elle s'enfonça plus profond dans son fauteuil comme pour se protéger. Je sais qu'en cet instant, elle ne souhaitait qu'une chose, me voir disparaître. Devenue menaçante, je la sommai de dire la vérité, de reconnaître les faits, d'avouer. Je voulais qu'elle parle, qu'elle me dise quelque chose qui me permettrait de comprendre, de pardonner peut-être. Elle jouait l'aphasique. J'insistais, lui ordonnais de m'expliquer. Comment avait-elle fait pour continuer à vivre toutes ces années avec ce crime odieux sur la conscience? Attendant ses réponses qui ne venaient pas, je me demandais pourquoi le sort l'avait conduite jusqu'ici, dans ce pays, cette ville, cet immeuble, cet appartement juste au-dessus du mien. Que pouvais-je faire d'autre que de la forcer à avouer? Maintenant que j'avais abattu mes cartes, je ne devais plus la lâcher. Je repris donc mon interrogatoire, jusqu'au moment où elle fut prise d'une crise d'asthme. Je la regardais sans plus savoir que faire, n'osant plus bouger, pétrifiée. Elle reprit ses esprits, après être parvenue à sortir de la poche de sa veste un aérosol qu'elle vaporisa dans sa bouche grande ouverte. Retrouvant l'usage de la parole, elle m'assura que je me trompais, que ce n'était pas d'elle qu'il s'agissait, mais de sa sœur aînée, assassinée par les nazis lors d'une tentative d'évasion dans un camp de travail où elle avait été emprisonnée. En aucun cas, ce ne pouvait être elle, pour la bonne raison que, pendant toute la durée de la guerre, elle avait été confinée dans un orphelinat. Gravement malade, asthmatique, au dernier degré, c'est là que, toute petite fille, elle avait été recueillie et soignée par des religieuses. Que c'est seulement 6 mois après la fin de la guerre qu'elle avait su pour sa sœur Ingrid, son arrestation puis sa mort. Je la fis boire à nouveau, j'étais profondément troublée, sans pour autant croire un mot de ce qu'elle me disait. Elle mentait, c'était évident. Alors je recommençais, repartant depuis le début, le camp, le projet d'évasion, le jour de notre fuite à le vélo d'Oda, encore et encore. J'étais persuadée qu'elle finirait par craquer. J'avais tant et tant attendu ce moment. Nous n'allions pas classer l'affaire et nous en retourner à notre petit quotidien comme si de rien n'était. C'était impensable. Mais elle niait. Elle niait toujours, démentait sans cesse, pleurait, me répétant que je me trompais, qu'il y avait méprise, que je devais parler de sa sœur, Ingrid. Ingrid, elle répétait inlassablement. Que tout cela n'était qu'un épouvantable malentendu, qu'il ne pouvait s'agir que de Ingrid. Elle me le redit même à plusieurs reprises en allemand, m'implora, me supplia de la croire. Enfin, elle me demanda d'aller lui chercher une boîte en fer rangée en bas de la bibliothèque. Elle en sortit une photo qu'elle me tendit. Deux jeunes filles côte à côte. Un air de famille évident, mêmes yeux, même bouche, même crinière de feu, même maintien un peu raide. De l'index, elle désigna celle de droite comme étant sa sœur, Ingrid. Et je crus en effet reconnaître son visage. Il me fallait vérifier, être sûr. Tandis que j'approchais la photographie de la lumière du lampadaire, Lane fut prise d'une nouvelle crise, plus violente que la précédente. J'étais tétanisée, incapable de faire le moindre geste. Elle s'immobilisa enfin. La crise était passée. C'est alors qu'elle eut une espèce de soubresaut. Ses lèvres tremblaient, un râle étrange s'en échappa, laissant sa bouche béante. Ses yeux écarquillés fixaient le plafond. Je m'approchai d'elle, imaginant le pire, et prise de panique, je rangeai la photo dans la boîte en fer que je remis à sa place. Je saisis mon verre pour ne laisser aucune trace de mon passage et sortis précipitamment de l'appartement en prenant soin de refermer la porte sans faire de bruit. La suite, vous la connaissez. Je ne vais pas me trouver de circonstances atténuantes, Sarah. Je ne sais toujours pas si votre arrière-grand-mère, Lane, m'a dit la vérité. Une chose est sûre, elle et sa sœur se ressemblaient beaucoup. Elles avaient ce même regard. Je vous parle de leur incroyable couleur, probablement due à cette pigmentation dans leur iris. Mélange subtil de vert et d'or dont la combinaison est impressionnante, unique. Vos yeux ont cette même singulière couleur, mais je vous le répète, votre regard dont l'éclat est si doux n'a rien à voir avec le sien. Enfin voilà, Sarah, c'est ainsi. Les choses sont ainsi faites. Il est des combats déjà vains, je vous l'ai dit. Je n'ai pas voulu ce qui s'est passé. En mon âme et conscience, je reconnais avoir été coupable de non-assistance à personne en danger. Peut-être même d'homicide involontaire. À toutes ces charges qui pèsent contre moi, on peut ajouter le fait que je me sois servi de vous, que je vous ai manipulé, vous ai contrainte à me lire, dans l'unique but de me délester de ce poids de culpabilité devenu trop lourd. De tout cela, on peut m'accuser. Je vous demande pardon. Pardon parce que dans cette histoire, c'est à votre insu que vous avez tenu le rôle d'ange rédempteur qui m'a permis d'avouer ma faute, de me libérer d'un fardeau. Maintenant qu'approche l'heure de m'envoler, je me sens plus légère. Je verrai bien de l'autre côté s'il faut avouer ta moitié pardonnée. Il paraît que les émotions fortes comme le désespoir ne peuvent se partager. Merci de m'avoir aidé à supporter le remords qui me ravageait. Je vous avoue avoir honte. Encore maintenant, en vous décrivant pour la dernière fois. Cette honte est l'unique raison de mon refus de vous voir. Je n'aurais jamais pu vous regarder en face, Sarah. Vous comprenez? Vous savez, j'aurais été heureuse d'avoir une arrière-petite fille. Et si cela avait été possible, sachez que j'aurais voulu qu'elle vous ressemble, ma chérie. Je vous remercie de tout mon cœur pour ces quelques mois en votre compagnie. Ils ont été d'une douceur et d'une tendresse infinies. Sachez, ma chère Sarah, que j'ai fait de vous ma légataire universelle par un testament en règle déposé chez Maître Lebel, notaire. J'ai également adressé une lettre à Anna sur laquelle sont couchées mes dernières volontés, somme toute assez simples. Elle veillera au bon déroulement des choses. Avant de vous quitter, ma chérie, j'ai encore quelques vœux à formuler. devenez ce que vous êtes, ma tendre Sarah, et que notre répondance devienne votre premier roman. Je vous laisse le soin de modifier ce que vous jugerez bon de modifier. Je vous fais confiance. Toutefois, pensez à changer le titre. Vous trouverez, j'en suis certaine. J'ai absolument confiance en vous. Je vous confie Suzanne. Prenez soin d'elle. Elle a encore quelques petites années devant elle. Je suis sûre que vous l'aimerez. Elle vous aimera aussi. Je lui ai souvent lu vos lettres. Elle est au courant de tout et vous connaît déjà. Vivez pleinement de toutes vos forces et laissez les choses se faire. Mais ça, je crois que vous l'avez compris. Pour finir, encore une fois, la dernière, je vous demande d'essayer de me pardonner et de ne pas complètement oublier. Avec toute ma tendresse, ma merveilleuse chérie, Hectorine.
C'était l'appartement du dessous de Florence Herlemann. À bientôt pour un prochain À vous la suite.